le magazine des Nations Unies.
Attaque de miliciens contre les FARDC, graves tensions communautaires dans le haut plateau de Minembwe. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dit préoccupée. Le porte-parole de la MONUSCO nous dira comment la mission gère cette situation d'insécurité aux côtés des FARDC. Paix durable et sécurité encore, un député provincial propose la mise en place d'une commission vérité et réconciliation au Nord Kivu pour soutenir l'état de siège dans cette province. Près de 11 000 victimes de violences sexuelles prises en charge par Médecins Sans Frontières en RDC pour la seule année 2020. Le phénomène prend de l'ampleur. Sophie Paddy dit stop et lance la campagne « Je me lève contre les violences sexuelles » basée sur le genre pour l'accès à la justice et la réparation des survivants. Les détails dans un instant. Enfin, à l'Équateur, environ 15 000 enfants souffrent de la malnutrition. La FAO veut lutter efficacement contre ce fléau. Une vingtaine de structures communautaires sont formées en recettes culinaires nutritives. Paul Richard Malengela nous en dira davantage dans cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, reste préoccupée par la persistance des graves tensions intercommunautaires et d'attaques contre le village dans la région de Haut Plateau, province du Sud Kivu. Le week-end dernier, plusieurs villages ont à nouveau été brûlés, poussant les populations civiles à la fuite. Ces événements font suite à des attaques menées contre les forces armées de la RDC présentes dans la zone qui ont fait plusieurs victimes. Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO que nous avons joint au téléphone, parle de ces événements.
Il y a deux semaines, il y a eu des attaques qui ont été directement menées par des groupes armés contre des militaires congolais. Et le week-end dernier, à cela s'est ajouté de nouvelles attaques contre des villages qui ont été brûlés autour de Minembwe et dont la population a dû prendre la fuite. Donc c'est une situation évidemment qui continue de préoccuper au plus haut point la représentante spéciale du secrétaire général Bintou Keïta, qui est aussi la chef de la MONUSCO. La MONUSCO, pour répondre à cette situation, a multiplié les patrouilles terrestres avec les militaires congolais. Nous continuons de les soutenir. Nous avons d'ailleurs évacué 14 soldats congolais qui ont été blessés. Et nous avons également déployé des hélicoptères d'attaque pour dissuader les groupes armés de mener, de continuer leurs méfaits contre les populations civiles. En parallèle de ce travail sécuritaire, la MONUSCO continue évidemment de protéger les milliers de personnes qui vivent autour de ces bases à Minembwe et dans d'autres localités des Hauts Plateaux. Et la MONUSCO continue aussi de soutenir toutes les initiatives de réconciliation communautaire, de dialogue communautaire.
Restons toujours dans ces chapitres paix et sécurité, cette fois-ci au Nord Kivu. Pour une paix durable, un député provincial propose la mise en place d'une commission vérité et réconciliation qui travaillerait en même temps que le processus DDRCS en vue de soutenir l'état de siège en cours au Nord Kivu et en Ituri. Le député provincial Emmanuel Mouhozingarouye, élu de Rutshuru, c'est bien de lui qu'il s'agit, pense que ces cadres de dialogue entre les communautés renforceraient tous les efforts déjà consentis dans la recherche d'une paix durable et la sécurité à l'est du pays. On l'écoute au micro de Sifa Maguru.
Ma motivation vient du fait que malgré plusieurs initiatives du président actuel et de ses prédécesseurs tendant à nous amener la paix, l'insécurité est restée intacte dans nos entités, dans notre province. L'insécurité, pourquoi elle ne finit pas? Parce que, à mon sens, il y a une mauvaise approche. En effet, notre population est constituée en grande partie par des victimes de plusieurs guerres, l'AFDEL, l'RCD, le CNDP, l'M23 et leurs dérivés. Ces guerres ont laissé des conséquences graves dans les vies des victimes. Cela m'a motivé énormément à saisir le président de la République afin qu'il puisse désormais accorder la place aux victimes. Écoutez les victimes à travers cette commission Vérité. Lorsque la vérité sera déjà connue, que les bourreaux seront déjà identifiés à travers l'écoute des victimes, les bonnes solutions viendront et la sécurité sera au rendez-vous.
Autre chose à présent, l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, Sophie Paddy, et quelques organisations de la société civile, en partenariat avec OSFAM, ont lancé ce vendredi à Kinshasa, avec l'appui financier et logistique d'OSFAM, la campagne « Je me lève contre les violences basées sur le genre ». Il s'agit d'un engagement de tous contre ce fléau qui détruit des vies. Cette campagne est en fait un plaidoyer pour l'accès à la justice et à la réparation en faveur des victimes et survivants des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Tout part du constat selon lequel les violences sexuelles connaissent une augmentation ces dernières années en RDC. Il faut assurer davantage l'accès à la justice et surtout la réparation pour lutter contre ce phénomène. Maître Marcel Wechokonda Kousso, avocat au barreau de la Gombe, propose donc de renforcer les lois de 2006.
Que soit consacrée la gratuité des frais pour les victimes des violences sexuelles. Ça veut dire que lorsque on a été victime des violences sexuelles, on ne devrait pas consigner les frais, on ne devrait pas payer les honoraires des avocats.
Pour sa part, Madame Nénette Bonzenme, avocate et membre de la FEJUCO, a abordé la thématique de la campagne.
Dans cette campagne, nous allons plaider et influencer en faveur de la réparation effective des survivants des violences sexuelles. Parce que les personnes violées, généralement, elles ont des vies détruites. Elles sont détruites de l'intérieur. Ce sont des personnes qui sont traumatisées, qui subissent la honte de la société, qui subissent la discrimination.
Notons que cette campagne vise aussi à mobiliser la communauté, les institutions nationales et internationales pour la création d'un fonds de réparation pour les survivants des VBG. Sa durée n'a pas été révélée. Cap maintenant vers l'Équateur, précisément en Mbandaka, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, FAO, et ses partenaires apprennent à une vingtaine de structures communautaires une multitude de recettes culinaires locales et c'est après une formation théorique organisée à leur intention. Objectif, lutter contre la malnutrition des enfants dans cette partie du pays. Paul Richard Malengela, notre correspondant à l'Équateur, nous en dit plus dans ses reportages.
Au regard de la formation de la FAO, un repas nutritionnel doit être équilibré. Il renferme quatre types d'aliments ou étoiles, à savoir un aliment de base, une légumineuse, de la viande, ainsi que de légumes et de fruits. Claudine Biongo, coordonnatrice de l'ONG Maman Nandela Développement MND, explique quelques-unes des recettes nutritionnelles apprises.
Premièrement, par rapport aux nourrissons, nous avons préparé la bouillie à quatre étoiles. Nous avons pris le soja, le maïs, la chenille et puis arachide. Et nous avons ajouté les tomates. Donc à partir de 6 jusqu'à 2 ans, l'enfant peut consommer les aliments familiales. Les 4 étoiles, par exemple, deuxième recette, le ngukasa. Nous avons pris les bananes plantées et bananes mûres mélangées avec arachide. On ajoute aussi les légumes, ça c'est troisième étoile. Et au finish, nous avons mis aussi les poissons.
Certes, les recettes nutritionnelles sont utiles, mais la présidente provinciale du Réseau national des associations des femmes rurales, Renafer Équateur, estime que la sécurité alimentaire commence d'abord par cultiver et cultiver équilibré. Régine Bokoumanzango.
Il faut planter en fonction des 4 étoiles les gens qui ont des grands champs. Il faut équilibrer aussi des cultures. Il faut que dans votre champ, vous ayez des manioc, vous ayez les maïs, vous ayez également des amarantes, que vous ayez également des soja. Parce que lorsqu'on parle de soja, on voit légumineuses deuxième étoile. Il faut que vous ayez également d'aubergines, des tomates, et ainsi de suite. Il faut penser aussi à l'élevage. Tout ça, ça doit déjà commencer au niveau des champs.
Les 40 participants à cet atelier ont reçu mandat d'aller vulgariser ces recettes dans leurs zones d'intervention respectives. Car la province de l'Équateur fait face à la malnutrition qui se vit actuellement dans 14 des 18 zones de santé. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Notons que la province de l'Équateur, nonobstant ses potentialités agro-pastorales et halieutiques, compte 150 000 enfants malnutris selon le programme national de nutrition Pronanut.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous recevons dans Décryptage Madame Adine Dor Omokoko, elle est secrétaire générale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle. Cette organisation des femmes a organisé du 20 au 22 juillet dernier, avec l'appui du PNUD, un atelier de renforcement des capacités des femmes autour d'un nouveau concept, le Gender Wash. Qu'est-ce que c'est ce nouveau concept et comment peut-il aider à booster les compétences des femmes dans les différents secteurs de la vie? Notre interlocutrice répond à ces questions et à bien d'autres.
Madame Omokoko, bonjour.
Bonjour.
Nous participons à cet atelier sur le renforcement des capacités sur le Gender Wash. Mais c'est quoi avant tout, Madame Gender Wash?
Gender Washing est un nouveau concept de gouvernance qui permet à ce que l'on puisse corriger les irrégularités qui ont déjà été vécues. Et comme nous sommes dans une dynamique de réforme au niveau national, et CAFCO, comme structure nationale, a pensé rentrer dans la droite ligne de ces réformes en redynamisant toutes ces structures de base, parce que nous avons avec nous les femmes de province aussi, pour que nous puissions, dans cette dynamique de gender washing, arriver à nous conformer aux réformes institutionnelles qui sont prônées aujourd'hui par le chef de l'État.
Vous avez parlé, madame, des irrégularités. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Quelles sont ces irrégularités?
Bon, les irrégularités se résument d'abord dans le sens de la compréhension des notions du genre. On croit que le genre, c'est les femmes. On croit que le genre, c'est une question essentiellement liée aux femmes. Le genre, or, le genre prend en considération tous les aspects de la vie dans la société. Prendre en considération les aspects sexo-spécifiques des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des moins âgés et des plus âgés, des ceux qui sont dans les institutions et ceux qui ne le sont pas, pour arriver à corriger ces inégalités. Donc c'est ça qu'il faudrait entendre par le gender washing. Et pendant longtemps, nous-mêmes dans CAFCO, nous avons mené nos activités de plaidoyer uniquement dans le secteur de la prise de décision, de la participation politique, en laissant en compte tous les autres aspects économiques, sociaux, les dynamiques de nouvelles technologies, de l'environnement, en laissant en compte ces aspects de choses. Et donc, avec cet atelier, nous voulons nous renforcer pour arriver à prendre en compte cela, corriger notre façon d'agir pour l'intérêt de tous.
Vous faites ce travail ici, c'est avec l'appui du PNUD. En quoi consiste justement cet appui et pourquoi le PNUD vous accompagne?
Le PNUD, c'est un partenaire de longue date depuis que CAFCO a été mis sur pied. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le PNUD, dans son département, si je peux dire genre, vient nous apporter, puisque c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle notion, un nouveau concept, nous apporte des éléments à intégrer dans notre façon d'orienter notre travail quotidien.
Alors, votre ancienne présidente est devenue ministre de la Justice. Et c'est une joie pour CAFCO et pour tous ses membres. Maintenant, la lutte, je pense qu'elle a abouti.
Non, elle n'a pas encore abouti. C'est vrai que c'est un grand pas et c'est un honneur que notre structure soit reconnue et que notre présidente soit élevée au niveau où elle est, ministre d'État, ministre chargée des questions de la justice et garde des sceaux. C'est un honneur, c'est une façon pour nous de dire que c'est un couronnement de tout le travail que nous sommes en train d'abattre, qui n'est pas resté insensible, qui n'est pas resté dans les tiroirs. C'est une connaissance au fait, travail que les femmes ont abattu au niveau de CAFCO pour qu'elles puissent être élevées. Je ne dirais pas que nous sommes arrivés parce qu'il y a beaucoup à faire.
Oui, les institutions, il y a quand même un progrès qui a été fait de ce côté-là.
Oui.
En ce qui concerne la représentation féminine, pour l'instant, vous avez parlé d'autres aspects économiques, sociaux, et ainsi de suite. Et comment vous allez vous y prendre, madame?
D'abord, pour nous y prendre, il faudrait que nous puissions être renforcés. C'est ça même, entre autres, l'objectif de cet atelier.
Donc, renforcer les capacités.
Nous devons nous renforcer les capacités des femmes. Nous ne pouvons pas plaider pour retrouver les femmes dans les institutions sans que nous puissions leur donner les bagages adéquats pour arriver à briguer.
Et vous avez les moyens?
Nous sommes en partenariat avec les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques. Nous sommes partenaires au gouvernement congolais puisque nous sommes une structure nationale. Et c'est une façon pour moi, par votre biais, de lancer un appel vibrant aux autorités de penser réellement à appuyer les structures nationale. Aussi, nous sommes en partenariat avec les partenaires bi- et multilatéraux, entre autres les institutions les institutions des Nations Unies, les ambassades. Donc, nous pouvons, au regard de toute cette panoplie de partenariats, arriver à atteindre nos objectifs qui redynamisent CAFCO, qui réorientent ses actions et qui renforcent les activités de ses membres.
Madame Omokoko, je vous remercie.
Merci beaucoup.
À Kananga, au centre du pays, la section d'appui à la justice de la MONUSCO, en partenariat avec le PNUD, organise depuis jeudi une séquence de recyclage à l'intention des officiers de police judiciaire, greffiers et secrétaires du ressort de la Cour d'appel. Cette section de formation de 7 jours concerne la gestion des pratiques des greffes et des secrétariats de parquet. Pour le chef des sections d'appui à la justice et de la MONUSCO à Kananga, le souci est de permettre à ces acteurs d'améliorer leur travail de rédaction et des constats sur différents dossiers des faits et des justices. Le parc national de Salonga, retiré de la liste du patrimoine mondial en péril, c'est une décision du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni en ligne depuis le 16 juillet dernier. Le comité dit avoir constaté des améliorations apportées dans l'état de conservation du patrimoine du parc, notamment celles liées à la gestion du parc et au renforcement des mesures anti-braconnage. Revenons à Kinshasa où l'UNICEF a remis au ministère de la Santé un lot de matériel et médicaments d'une valeur de plus de 1,5 million de dollars américains en vue de répondre de façon massive et efficace à la troisième vague de la pandémie COVID-19 survenue en République démocratique du Congo. Ce don intervient dans le cadre du projet de développement du système de santé PDSS dans son volet appui à la mise en œuvre du plan national de réponse contre l'épidémie COVID-19. Il est composé essentiellement d'équipements de réanimation, des concentrateurs d'oxygène, d'électrocardiographes, d'équipements de protection individuelle, des masques de protection respiratoire et des thermomètres électroniques.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO pour le Sud Kivu et le Maniema, est notre invité. Il a fait partie d'une mission conjointe MONUSCO-gouvernement provincial qui a séjourné à Uvira pour se pencher justement sur la situation sécuritaire dans le haut plateau de Minembwe en territoire de Fizi. Et ceci 10 jours après les affrontements entre les FRDC et des miliciens. Karna Soro s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
Karna Soro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Uvira. La situation reste volatile et imprévisible à Minembwe après des affrontements entre les FRDC et les miliciens. Qu'est-ce que la MONUSCO a concrètement fait aux côtés de l'armée régulière pour sauver la situation?
Dans un premier temps, je pense que c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé, puisque depuis des mois, la MONUSCO, sur instruction de Madame la représentante spéciale, a mis en place un plan d'action. Nous travaillons avec les communautés, il y a eu plusieurs rencontres entre les communautés, les leaders communautaires, dans les hauts plateaux. Au niveau de Minembwe, au niveau de Mikenge, les échanges étaient engagés. La MONUSCO a même distribué des semences aux populations au niveau de Mikenge et de Bijombo. Des aires de sécurité ont été déterminées par les FRDC pour leur permettre donc de pouvoir répondre à leurs besoins humanitaires par eux-mêmes, sur la base de toutes ces discussions. Malheureusement, l'attaque du 10 nous a ramené quelque peu à zéro. Et Madame la représentante nous a demandé de tout mettre en œuvre pour rétablir le dialogue entre les populations, entre les différents acteurs, de continuer à appuyer la FRDC et de continuer les efforts pour que la tension baisse à nouveau.
Alors que la situation s'est dégradée dans le haut plateau, la population a observé des hélicoptères de la MONUSCO effectuer plusieurs navettes dans l'espace. De quoi il a été question?
Bon, je pense que vous connaissez tous l'environnement dans lequel nous opérons dans les hauts plateaux d'Ouvira. Tout s'interprète en fonction de votre posture communautaire. Tant que vous estimez qu'une action n'est pas en votre faveur ou en celle de la faveur de votre communauté, vous estimez qu'elle est contre vous. Donc c'est pas nouveau. Je vous rappelle que même en 2017, lorsque la MONUSCO a empêché Yakutumba de prendre Ouvira, nous avons quand même été critiqués par les médias locaux et les réseaux locaux. Donc c'est, je dirais, un peu des tendances, des dynamiques qui sont connues ici en ce moment. Après les attaques du 10, nous nous sommes concertés avec les FRDC et nous avons établi différents scénarios éventuels. Et donc c'est dans le cadre de ce travail-là que les troupes de la MONUSCO se déploient en mobilité pour essayer donc de pallier aux FRDC qui, eux, se sont déployés au sol pour sur un certain nombre de points qui pourraient éventuellement être des points d'attaque. Et au niveau de la MONUSCO, donc, nous avons, grâce à nos moyens, une certaine mobilité qui fait que nous passons au niveau de village en village, dans un premier temps, ceux qui ont déjà été attaqués pour faire un point, pour voir quelle est la situation éventuellement, et aussi au niveau de ceux que nous estimons sont susceptibles d'être attaqués par des milices, qu'elles soient d'une communauté ou d'une autre, donc. Et nous faisons donc ce tour-là en permanence en ce moment pour essayer d'anticiper autant que faire se peut. Mais, naturellement, vous connaissez la contrainte. L'endroit est très vaste. La sociographie des habitations, des habitats humains est très compliquée. C'est pas des habitats humains regroupés. Donc, nous essayons de faire ce que nous pouvons en articulation avec les FRDC pour voir comment anticiper sur ces attaques-là. Il y a en ce moment ce que nous essayons de faire, une opération de dissuasion pour éviter que la situation n'escalade plus que ce que nous avons. Et je pense que contrairement aux autres crises que nous avons eues en septembre 2019, aussi en mai-juin 2020, je pense que cette fois-ci, plus ou moins les acteurs, quelque part, font encore preuve d'un peu de retenue, quoique nous continuions encore à déployer des attaques sur des villages isolés.
La présence de la MONUSCO a été observée dans certains villages, notamment Kakangara, dans un endroit où les FRDC sont pratiquement absentes. Qu'est-ce qui expliquerait son déploiement à Kakangara dimanche passé?
Ben écoutez, il y a des citoyens congolais qui habitent Kakangara, qui habitent aussi Kakenge, à ce que nous sachions. Comme vous-même vous venez de le dire, les FRDC ne peuvent pas être partout. Ce n'est pas possible. Nous avons des milliers de villages. Donc les FRDC tiennent un certain nombre de positions et d'axes au sol. Et nous, donc, nous déployons par nos mobilités des patrouilles mobiles qui vont dans ces endroits-là pour voir comment la situation se passe. Est-ce que ces personnes ont été victimes d'attaques ou pas? Et puis ensuite, nous allons vers un autre endroit. Nous essayons d'anticiper autant que faire se peut. Mais il nous semble que tous ces villages, ce sont des villages qui sont sur la carte de la République démocratique du Congo et qui, quelque part, tombent sous la responsabilité du gouvernement. C'est une distribution de travail. Les FRDC savent que nous avons des moyens de mobilité qui nous permettent de nous projeter sur des sites où ils ne sont pas. Donc, nous travaillons avec eux. Ils savent que nous y allons. Nous sommes ici pour les appuyer. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas possible d'avoir une armée partout. On ne saura jamais avoir des soldats FRDC devant chaque maison, devant chaque case. Ça ne sera pas possible.
La nouvelle de province nous conduit ce dimanche à Bounia, en Ituri, pour parler justement de la reddition de cette rebelle des ADF la semaine dernière à Boga et Tchabi, dans le sud du territoire d'Irumu. Selon des sources sécuritaires, ces rebelles ont résolu de se désengager de ce groupe armé à la suite de la pression militaire exercée par les FRDC, notamment l'offensive lancée contre ce groupe rebelle depuis un mois dans la région. Le porte-parole de l'armée en Ituri demande à d'autres groupes armés d'emboîter les pas. Les détails avec vous, Martial Kizabiamungu.
Parmi ces 7 rebelles, 5 sont de nationalité congolaise et 2 du Rwanda. Tous déclarent appartenir au groupe rebelle des ADF, très actif dans la région de Boga-Mitego et Tchabi à Ituri, à la limite avec la forêt de Kainama au nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, les uns se sont rendus au FRDC le jeudi dernier à Tchabi et les autres vendredi et samedi à Boga. Les porte-parole de l'armée à Ituri indiquent que ces rebelles, porteurs de 5 armes de type AK-47, ont décidé de quitter la brousse après avoir subi une pression militaire. La même source rapporte que ces ADF, dont l'air chargé des renseignements, ont été présentés dimanche devant les responsables militaires du secteur opérationnel des FRDC à Ituri, basé à Tsiré, à la périphérie de Bounia. L'armée lance un appel à d'autres groupes armés actifs de profiter de cette période de l'état de siège pour déposer les armes pour éviter d'être traqués par des forces loyalistes. D'autres sources locales saluent cette réduction. Elles encouragent les FRDC à intensifier ses opérations contre tous les groupes armés en vue de permettre le retour de la population dans cette région. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question que je vous propose a trait au retrait progressif de la MONUSCO. Elle a été posée le 7 juillet dernier lors de la conférence de presse des Nations Unies par un confrère de Béni. Et elle est suivie de la réponse du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Julman.
Je m'appelle Gérard Kasmat, je suis journaliste à la radio Moto Butembo Béni. Ma question concerne les échanges autour des retraits progressifs de la MONUSCO à RDC. Je voudrais savoir si la MONUSCO partage le même point de vue que le gouvernement congolais, si ce débat est opporté pour la MONUSCO.
Non, vous savez, la transition, c'est quelque chose que nous, sur laquelle nous avons travaillé sur une stratégie, d'abord l'année dernière, conjointement avec le gouvernement. Là, nous avons donc ce groupe de travail conjoint qui a été lancé donc lundi avec le Premier ministre et qui a pour vocation de s'inscrire justement dans le cadre des priorités nationales qui ont été définies par le gouvernement lui-même dans le cadre de son programme d'action. Donc cette transition qui pour l'instant vise à recentrer nos efforts et nos moyens sur les trois provinces les plus touchées par le conflit, c'est-à-dire la vôtre, le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. Ça, c'est quelque chose qui a été défini avec le gouvernement. Et donc, cette stratégie de retrait ou cette transition, c'est pas quelque chose que la MONUSCO va faire seule dans son coin. C'est quelque chose, au contraire, pour lequel nous allons travailler directement avec le gouvernement afin de faire en sorte que ce retrait soit, encore une fois, progressif, mais surtout responsable et durable et permette de créer les conditions pour que plus jamais la République démocratique du Congo n'ait besoin d'un soutien international pour garantir sa sécurité et sa stabilité.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Je vous invite à présent à noter dans vos agendas ces quelques rendez-vous. Le 30 juillet prochain, ce sera la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains et le 31 juillet, nous célébrerons la Journée internationale de la femme africaine. Voilà. Tout le plaisir était pour moi, Jean-Pierre Elali Coco, de vous avoir présenté ces magazines, magazine qui a connu le concours de nos confrères du réseau Radio Okapi, Sifa Maguru, Paul Richard Malengela, Fiston Ngoma Mayabala et Martial Kizabiamungu. Émission que vous pouvez également retrouver sur www.radiokapi.net, c'est le site de Radio Okapi. Merci à l'éternel Dieu qui a permis que nous arrivions chez vous. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. En attendant, bonne suite du programme de Radio Okapi, la fréquence de la paix.